Betty Amélie. Jam Alain, représenté. Cabas Marie-Hélène. Chrétien Steve.
Présent.
Rouquayrol Béatrice, représenté. Depont Jean-Pierre. Barascute Bruno, représenté. Boyer Michel, représenté. Crespi Christian.
Présent.
Gombert Valérie, représenté. Guédan Frédéric.
Présent.
La Griffole Eda.
Présent.
Masson Olivier.
Présent.
Raymond Christian.
Présent.
Rivin Garrigue Sophie.
Présent.
Rochette Lydie.
Présent.
Serre Marilyn. Personne à pouvoir. Absente. Thomas Michel.
Présent.
Tourolier Sabine.
Présent.
Bourrelli Michel. Représenté. Jasomino Myriam.
Présent.
Prosperi Jean-Marie.
Présent.
Bord Jean-Paul.
Présent.
Gola Céline.
Présent.
Donc ce soir nous avons le quorum, donc on peut commencer le conseil municipal. On va nommer un secrétaire de séance. Je vous propose ce soir Madame Eda Lagriffol, qui est contre, qui s'abstient. Adopté à l'unanimité. Eda, tu es secrétaire ce soir. Merci. Nous allons adopter le compte-rendu du conseil municipal du 30 juin 2022. Avez-vous des questions à poser?
Merci Madame le Maire. Donc quelques remarques qui concernent le compte-rendu du conseil municipal du 30 juin 2022. Donc une première remarque que nous avons régulièrement mentionnée, nous demandons que lorsque nous votons contre et lorsque nous débattons, lorsque nous nous abstenons, soit précisé sur le compte-rendu du conseil municipal de manière synthétique les raisons de cette abstention ou de ce vote contre. On vous a fait la précision plusieurs fois à chaque conseil municipal et donc on aimerait que vous en teniez compte. Voilà.
Bonsoir tout le monde. Lors du dernier conseil municipal, vous avez évoqué la réforme des règles de publicité des actes pris par les collectivités territoriales. Dans ces modifications, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2022, voilà, donc ils sont déjà entrés en modification, le procès-verbal de chaque séance, rédigé et signé par le maire et le secrétaire, etc., la teneur des discussions au cours de la séance doivent être mentionnées. Le procès-verbal est publié sous forme électronique, etc. Les informations des conseils municipaux, la liste des délibérations examinées par l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale et le procès-verbal de ces séances doivent être transmis aux conseils municipaux, etc. Donc, ce que j'ai retenu, c'est que la teneur des discussions du dernier conseil municipal n'est pas retranscrite sur le procès-verbal, le compte rendu que vous nous avez donné. Et les derniers conseils métropolitains qui ont eu lieu, notamment celui du 26 juillet, il y en a eu un aussi le 4 octobre, donc c'est récent, rien ne nous a été transmis de votre part concernant au moins notre commune. D'ailleurs, une question que je pose également, est-ce que ces modifications ne devraient pas faire l'objet d'une modification du règlement intérieur? C'est une question. Et pour le conseil du 4 octobre, oui, ça, il y a des faits d'harcèlement. Le conseil du 4 octobre, il y avait un point à l'ordre du jour sur la commune de Montferré concernant l'aménagement de Baliargué. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots peut-être? Merci. Assez désagréable. Je pensais qu'on pouvait quand même être plus raisonnable dans ces.
J'espère que ça ne va pas faire d'effet Larsen. Je pense que c'est bon. Le dernier conseil municipal avait lieu le 30 juin. Ça s'est appliqué à partir du 1er juillet. Donc c'est à partir de ce conseil que nous allons mettre en place les nouvelles règles qui nous sont demandées depuis le 1er juillet 2022. Donc c'est à partir de ce conseil. Donc voilà, on appliquera tout ce qui a été mis dans la nouvelle réglementation. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous m'aviez ? Parce que du coup, avec le Larsen... Non, elles sont applicables, ces règles, elles sont arrivées pour nous applicables en conseil municipal, on les met en place à partir du 1er juillet 2022, premier conseil 6 octobre, donc voilà, on le fait. Donc on va passer au vote, qui est contre l'approbation du compte rendu du conseil, excusez-moi, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Nous allons voter aussi l'ordre du jour. Donc vous l'avez eu par mail. Donc qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Dans l'ordre du jour, donc le point A, le point information. Donc la première chose dont je voulais vous parler, c'était très rapidement de la rentrée des classes. Donc la rentrée des classes est lointaine, hein, bien sûr, puisque c'était le 1er septembre, donc la rentrée des classes est bien effectuée. Nous avons 401 élèves à l'école maternelle et à l'école élémentaire. On a 266 élèves à l'école élémentaire et 135 élèves à la maternelle. Donc nous avons des effectifs qui ne sont pas du tout chargés dans nos classes et les enseignants en sont absolument ravis. On va juste croiser les doigts pour que les effectifs ne diminuent pas et qu'on ne perde pas une classe l'année prochaine. Donc ça, voilà, on va voir comment cette année va se dérouler et si on a des enfants qui arrivent dans la commune. Ensuite, cette rentrée des classes, donc nous avons eu une nouvelle directrice que vous avez pu rencontrer, je pense, pour ceux et celles qui sont venus à différentes manifestations à la mairie depuis la rentrée. Donc Madame El Khalfioui, qui est très dynamique, pleine d'idées et qui a envie de faire avancer l'école de Montferrier. Donc j'espère que nous allons bien travailler main dans la main. Hein, Monsieur Chrétien, je pense que voilà, on va faire du très bon travail avec Madame El Khalfioui. Au niveau de l'école maternelle, et nous avons donc des nouveaux stagiaires aussi, et une nouvelle enseignante qui est Madame Soulérac et qui remplace Madame Leludec qui est partie à la retraite. Au niveau de la maternelle, pas de changement au niveau des enseignants. En revanche, nous avons installé un magnifique nouveau jeu que les enfants ont découvert à la rentrée et ça a fait vraiment l'unanimité. Il nous reste encore deux petites choses à installer, une table et une cabane. Et ça va être fait au moment des vacances de la Toussaint. Voilà, donc des belles nouvelles aux écoles. Les professeurs d'école ont été enchantés de leur nouvelle classe. Les quatre nouvelles classes qui ont été refaites cet été. Donc voilà, dans l'ensemble, ça a l'air de très bien se passer. Tout le monde est heureux. Nous repartons sur une très belle année scolaire, je le souhaite. Deuxième point, la déchetterie. Alors là, c'est l'Arlésienne. La déchetterie, donc, je suis obligée de dire que la déchetterie n'avance pas. Encore aujourd'hui, j'étais avec M. Merliot de la métropole, à qui j'ai dit, M. Merliot, la déchetterie devait reprendre le 6 septembre, nous sommes le 6 octobre, et rien ne s'y passe. Donc, nous sommes dans l'inconnu. Ils ne savent pas me dire pourquoi la déchetterie ne commence pas. Alors, ils disent qu'il y a eu un problème d'appel d'offres. Ça, c'est vrai, ça s'est passé au mois de juillet, il y a eu le mois d'août. En septembre, ça a été relancé, donc ça aurait dû redémarrer. Maintenant, on nous parle de l'arrivée d'une piste cyclable qui peut-être nécessiterait le retrait de l'entrée de la déchetterie d'un certain nombre de mètres. Donc, je découvre l'arrivée d'une piste cyclable le long de la déchetterie. Aujourd'hui, la déchetterie ne rouvrira pas début novembre comme c'était prévu. Ça, c'est absolument certain. Et nous sommes repartis sur une ouverture hypothétique en janvier ou en février 2023, si tout va bien. Donc, première question que j'ai reposée encore à M. Merliot aujourd'hui, puisque j'étais en réunion avec lui, pourquoi nous avons fermé la déchetterie? Pourquoi nous avons fermé la déchetterie au mois de mai? Ça paraît tellement évident. Parce que tout était prévu pour que ça commence, et il y a eu deux lots infructueux. Il a fallu donc refaire l'appel d'offres. On est arrivé au mois de juillet, les vacances, et donc on redémarre en septembre. Et là, l'explication est moins claire pour cette deuxième raison de retard. Donc j'espère, il m'a promis ce matin que demain, normalement, je devrais avoir un mail explicatif. Donc la déchetterie, voilà, il va falloir qu'on prenne notre mal en patience. La déchetterie sera fermée jusque début 2023. Voilà. Ah ben oui, il y a une grande pancarte sur la déchetterie et il est écrit qu'on va soit à Castelnau, alors soit Castelnau-le-Lez, soit en face du zoo du Lunaret, soit le Crès. Et on peut aller aussi à Grabet. Mais eux ont donné comme nom de déchetterie les déchetteries qui sont de ce côté-ci du Lez et n'ont pas traversé Montferrier pour aller à Grabet. Donc le Crès, Castelnau et Montpellier. Voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour nous. Hein. Et je peux vous assurer que les Pradéens sont exactement comme nous, puisque c'est une déchetterie qui était utilisée par les Pradéens. Les Pradéens, là, râlent énormément parce qu'ils sont encore plus loin que nous et ils sont obligés d'aller à Castelnau, le Crès. Vous vous rendez compte? Et après, on nous parle d'économie d'énergie, d'arrêter les voitures, enfin, etc., etc. Voilà. Donc, la déchetterie, ben, je vous ai tout dit, je ne peux pas vous en dire plus que ce que j'ai appris ce matin. Ensuite, le troisième point, c'est la ronde de Montferrier sur l'Aisse qui va avoir lieu, donc je vous en ai déjà parlé. Hein. Donc maintenant, ça y est, c'est officiel. Cette manifestation sportive aura lieu le dimanche 11 décembre sur toute la matinée. Elle est organisée donc par un couple de Montferriérains, très sportif, marathonien, et ça se passera à partir de la place des Grèzes, qui sera le village de cette manifestation. Et tout se déroulera entre le Mas de l'Huile, le chemin de la qualité. Le chemin de la qualité devant les écoles, ça sera essentiellement les courses pour enfants. Et ensuite, les courses pour adultes, il y en aura trois, avec trois niveaux différents, qui partiront du Mas de l'Huile, qualité, le vieux village, monteront au niveau de la mairie, redescendront, arriver place des Grèzes. Voilà, donc c'est une manifestation qui, je pense, va être très sympathique, très sportive en tous les cas, gratuite pour les enfants. Gratuite pour les enfants, et donc nous allons participer en tant que mairie, évidemment nous allons fournir les barrières, enfin voilà, tout ce dont ils ont besoin, et ce couple aimerait bien la rendre pérenne, et que chaque année, on ait de plus en plus de gens extérieurs à Montferrier qui puissent venir faire cette manifestation. Ils ont choisi ce créneau de décembre, et je crois que je vous l'ai déjà dit, parce qu'ailleurs il n'y a pas de marathon organisé, c'est une période creuse. Donc, du coup, ils pourront faire venir à Montferrier des grands marathoniens qui viendront s'entraîner, puisque ces marathoniens ont besoin de s'entraîner toute l'année. Donc, même les toutes petites courses, ça ne fait rien. Pour eux, c'est de l'entraînement régulier. Donc voilà pour la ronde de Montferrier. Et on parlera donc tout à l'heure de la subvention qu'on leur donnera justement pour assurer cette manifestation du 11 décembre. Ensuite, l'antenne 5G. Donc, grand sujet dans le village en ce moment. Et comme M. Dupont, c'est l'adjoint à l'urbanisme qui a géré l'antenne 5G de A jusqu'à Z, je vais lui laisser la parole pour qu'il vous donne les dernières... De A jusqu'à L.
Bon, vous savez tous qu'effectivement, nous avons une demande d'antenne 5G faite par Frimonil sur le boulevard de la Lironde. Bon, comme on est dans les infos, je voudrais simplement vous rappeler quelles sont les règles d'implantation d'une antenne de ce type. Donc il faut deux autorisations pour implanter une antenne. Premièrement, l'avis de l'ANFR. ANFR, c'est l'Agence nationale des fréquences. Cet organisme a donné son accord sur ce projet et ni le maire ni le conseil municipal ne peuvent revenir sur cet avis. Il est définitif. Le deuxième avis est une autorisation d'urbanisme. En l'occurrence, puisque c'est une antenne qui n'est pas importante en hauteur ou en emprise au sol, une seule DP suffisait. Alors, je vais vous raconter l'historique, si vous voulez. Le conseil municipal, le 30 juin, a voté une motion pour s'opposer à cette antenne. Le 4 juillet, nous avons transmis la DP à la métropole avec un avis défavorable, motivé. Le mercredi d'après, la commission d'urbanisme a validé cet avis. Bon, puis il y a eu le délai d'instruction. L'avis de la métropole et celle de la DDCE, qui est la direction déléguée du cycle de l'eau, puisque c'est dans une zone inondable, sont revenus vers nous tardivement, le 25 juillet, en donnant un avis favorable. Avis favorable par rapport au code de l'urbanisme, par rapport au PLU, par rapport au PPRI et par rapport au PRIF. Et simplement des prescriptions, il fallait s'éloigner de 20 mètres des berges de la Lironde. Suite à ça, c'est arrivé le 25, donc le 26, nous avons quand même pris un arrêté avec Madame le maire, nous opposant à cette DP. Par contre, compte tenu des délais d'acheminement, puisqu'on était au mois de juillet, on était le 26 et la date butoir était le 28, cet arrêté a été rejeté et donc nous avons un accord tacite. Depuis, nous avons rencontré Free, nous leur avons demandé de nous faire d'autres propositions. Voilà ce que j'ai à vous dire sur le point de l'antenne. Alors, quand même, je voudrais ajouter quelque chose, c'est que M. Bord, vous avez, je crois, déposé une question là-dessus. Je pense que vous faites partie de la commission d'urbanisme. Je pense qu'on en a beaucoup parlé, que vous êtes au courant de tout ça. On a communiqué auprès des Montferriérains, on a rencontré les riverains, on a fait un article dans les Blaise et l'Hironde. Donc je pense que votre question est assez inutile. Merci.
Ensuite, le dernier point, arrivée d'un food truck sur la commune. Donc, un Montferriérain crée un nouveau food truck, a décidé de se reconvertir et de monter un food truck pizza et a demandé l'autorisation à la mairie de venir s'installer sur la commune au niveau du parking qui est devant le Dévézou le vendredi soir de 17h30 à 21h. Donc, cette personne viendra à partir de la semaine du 17 octobre. Donc, je vous annonce l'arrivée d'un nouveau food truck sur le village. Et pour l'instant, il y est jusqu'au mois de juin. On verra comment ça se passe. D'abord, si lui, ça l'intéresse toujours de rester. Et comment ça se passe au niveau de l'utilisation du domaine public, puisque je suis obligée de faire un arrêté d'autorisation d'utilisation du domaine public pour ce food truck, sachant qu'il est complètement autonome, il est posé sur le parking, point, il ne n'utilisera pas l'électricité du Dévézou, l'eau, etc. Enfin, il est complètement autonome, et voilà, il utilise notre parking, d'où la nécessité de arrêté et la nécessité d'avoir une redevance. Cette redevance, nous l'avons fixée à 60 euros parce que ce monsieur débute et nous sommes calés sur ce qui se pratique un petit peu dans les autres communes. Donc voilà, cette redevance sera de 60 euros par mois. Par mois. 60 euros par mois. Et nous verrons à la fin de l'année comment ça se passe ici, voilà, s'il travaille bien, on décidera à ce moment-là. Donc aujourd'hui, à partir du 17 octobre, il devait arriver la semaine prochaine, il a des petits soucis avec son camion, donc c'est reporté au 17 octobre. Tous les vendredis soirs, 17h30, 21h, devant des maisons. Le dernier point, un point très important, c'est la démission de M. Bruno Bail. Donc, comme vous le savez, vous l'avez lu en copie, M. Bruno Bail a demandé sa démission du conseil municipal le 30 juin. Nous avons eu un conseil le 6 octobre, donc c'est à partir d'aujourd'hui que M. Bail est démissionné du conseil municipal. La loi demande à ce que le suivant sur la liste monte. Le suivant, c'est M. Henri Paturel, qui est présent ce soir dans la salle. Donc, M. Henri Paturel sera donc le nouveau conseiller municipal à partir de ce soir, puisqu'il est nommé en conseil ce soir. On vous a fait passer le tableau récapitulatif des indemnités, mais ça ne change rien, le fait d'enlever M. Bail ou pas, puisque M. Bail va être remplacé au niveau festivités par M. Crespi, qui est ce soir présent, puisqu'aujourd'hui, M. Crespi est très très présent au niveau de toutes les festivités qui se déroulent dans la commune. Donc, M. Crespi deviendra conseiller délégué aux festivités, remplacera M. Bail. Donc, au niveau des comptes, les adjoints et les conseillers délégués, il n'y a aucune modification et les pourcentages ne sont absolument pas changés. On reste en l'état. Donc, voilà, il n'y a pas de choses particulières. Après, nous avons une information du marché public. Donc, nous avons eu la rénovation, le marché public de la rénovation de l'école élémentaire. Sur ce marché public, il y a eu un lot électricité. Sur ce lot électricité, nous avons fait un avenant qui s'élève à 9 818 euros, comme vous avez pu le voir sur les documents que vous avez envoyés. Cet avenant correspond à du matériel supplémentaire que nous avons demandé. Le premier matériel, ça a été le changement de toutes les bornes de secours, les BAES. Quand on s'est retrouvé avec la rénovation de cette partie de l'école, l'électricien a demandé à l'adjoint aux travaux et à moi-même, qu'est-ce qu'on fait avec les BAES? Ils ont plus de 30 ans, il faudrait peut-être les remettre au bout du jour. Donc nous l'avons validé, donc nous avons changé tous les BAES et pour bénéficier du prix d'aujourd'hui. Donc il a acheté les BAES, nous les avons pour la deuxième partie des travaux qui aura lieu l'été prochain. Ensuite, nous avons créé une baie de brassage. Monsieur Chrétien, vous confirmerez, vous infirmerez si ça ne va pas. Nous avons donc créé une baie de brassage pour relier tous les ordinateurs des enseignants sur la fibre. Nous avons la fibre métropolitaine qui arrive donc à l'école. Donc nous avons créé ça. Ce n'était pas prévu au début. Donc nous avons fait un avenant sur le lot d'électricité. Et nous avons aussi changé l'éclairage des espaces entre les classes. Nous avons mis des lustres, je dirais, un petit peu plus modernes, un petit peu plus au goût du jour, alors que le devis de départ, c'était on restait classique avec ce qu'on faisait il y a 30 ans, on faisait la même chose. Bon, il fallait donner un petit peu de la modernité à l'école, donc voilà. Et ça nous a valu donc un surcoût de 9 818 hors taxes. Ensuite, au niveau du marché de la restauration scolaire, on a fait deux avenants. Je te laisse la parole.
Oui, afin de tenir compte des modifications de prix qui ont été induites, notamment par le fait que la cantine a dû s'interrompre plus tôt à cause des travaux qui ont été réalisés à la cantine, nous avions demandé des repas froids soient servis. Ça avait une implication au niveau du prix, donc il a fallu que nous fassions un avenant pour entériner ce prix particulier. Et il y a eu un autre avenant aussi, puisque nous avions eu des remontées de parents qui souhaitaient que les vinaigrettes ne soient pas mélangées avec les crudités pour que les enfants puissent manger les crudités sans vinaigrette. ça induit effectivement un léger surcoût et il fallait que nous puissions le constater par là.
Alors, nous allons passer à l'ordre du jour des délibérations. Donc, la première délibération concerne la modification de la composition des commissions. Donc, nous avons deux commissions qui sont modifiées. La commission finance. Cette commission finance, vous savez qu'elle est composée de 8 membres. Nous l'avons votée quand nous avons installé le conseil municipal. Donc, 8 membres. Dans ces 8 membres, vous avez 5 membres pour la liste avec vous pour Montferrier, 1 membre pour la liste vivant Montferrier et 1 membre pour la liste Montferrier ensemble. La modification, vous savez que M. Jeanne est un peu fatigué en ce moment, donc il a demandé à sortir de la commission finance. Et donc, M. Jeanne sort de la commission finance et il est remplacé par M. Depont, qui sera donc le nouveau conseiller adjoint dans la commission finance, le nouveau membre. Donc, je vous demande de bien vouloir délibérer. Donc, je vais passer ça au vote. Qui est contre le remplacement de M. Jean par M. Dupont ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. La deuxième commission où il y a une modification, c'est la commission culture, puisque dans la commission culture, il y avait M. Bail. Donc, M. Bail partant, M. Paturel monte à la commission culture. Pareil, à la culture, nous avions 10 membres obligatoires, 6 membres pour la liste avec vous pour Montferrier, 2 membres pour Vivons Montferrier, 1 membre pour Montferrier ensemble, sachant que le maire est membre de droit dans toutes les commissions. Donc là, départ de M. Ball et entrée de M. Henri Paturel. Donc la commission culture, je peux vous dire qui y sera, donc Béatrice Rouquayrol, Bruno Barascud, Henri Paturel, Valérie Gombert, Michel Boyer, Christian Crespi, Michel Borrelli, Myriam Gelsomino et Jean-Paul Bourg. Nous allons délibérer. Qui est contre ce changement ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. La deuxième délibération concerne le compte épargne-temps. Donc, cette fois-ci, nous vous demandons de faire une petite modification au niveau du compte épargne-temps. Ce compte épargne-temps, jusque-là, il était utilisable en congé uniquement. C'est-à-dire que si vous vouliez prendre des jours sur votre compte épargne-temps au moment où vous quittez la commune, au moment où vous êtes à la retraite, vous étiez obligé jusqu'à aujourd'hui à les prendre en congé. Aujourd'hui, nous allons voter une deuxième possibilité, la possibilité de prendre sur ce compte épargne-temps, de monétiser les jours qui peuvent être pris sur ce compte épargne-temps ou ça sera proposé à l'agent de les transformer en points de retraite. Donc l'agent aura 3 possibilités pour utiliser ces jours de CET, soit les prendre en congé, soit les monétiser, soit les transformer en points de retraite. Sachant que les 15 premiers jours qui sont acquis sur un CET sont obligatoirement pris en congé. Et c'est au-delà du 15e jour que l'agent aura le choix entre le congé, l'indemnisation ou les points de retraite. Voilà, je pense qu'il est nécessaire de prendre cette délibération pour donner un petit peu plus de souplesse. Je vous le dis tout simplement parce que nous avons eu le cas de Julie Valagnier, notre policière municipale, qui est partie et qui ne pouvait pas prendre tout son CET. Donc, nous avons réfléchi à cette délibération, c'est pour ça que nous l'avons mise au conseil de ce soir. Donc nous allons délibérer, sauf si vous avez des questions. Oui.
C'est une question un peu technique. Comment se fait la validation de la... Enfin, est-ce le supérieur hiérarchique qui fait la validation auprès de l'agent de la possibilité de mettre ou pas...
C'est une discussion avec l'agent. De mettre les jours sur son CET,
voilà.
Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'agent nous dit j'ai 20 jours de congé, j'en prendrai 15 cette année et les autres, je les mettrai sur mon CET, sachant que sur le CET, vous ne pouvez pas mettre plus de 60 jours. 60 jours, après, c'est terminé, vous ne pourrez plus les mettre. Vous ne pouvez plus les mettre. Donc après, les agents les prennent durant l'année. Voilà.
Donc les heures complémentaires peuvent être abondées au CET si elles
si elles sont équivalentes à une journée. Si elles sont équivalentes à une journée.
Et en termes de dialogue social, comment s'est fait l'information au personnel concerné
On a discuté avec les agents, on leur a présenté le CET. Les agents ont pris ou pas pris un CET, hein, parce qu'il n'y a pas d'obligation, hein, chacun choisit. La plupart des agents ont pris un CET. Et c'est vrai que chaque année, on a 1, 2, 5 jours qui se mettent sur le CET parce que ben, soit ils n'arrivent pas à prendre tous leurs congés, soit ils préfèrent en mettre quelques-uns et puis pouvoir en prendre l'année d'après parce qu'il y a un grand voyage qui est prévu. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment à la discrétion de l'agent, mais toujours en discussion avec son supérieur hiérarchique, le DGS ou moi-même. D'autres questions ? On va passer à la délibération. Donc qui vote, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Alors après, nous arrivons au point à la note de synthèse numéro 3, l'adoption du rapport de la commission de la CLECT. Je vais laisser la parole à Monsieur Capot.
Alors c'est vrai que ça revient un petit peu chaque année, hein, c'est-à-dire que chaque année, donc, la commission locale d'évaluation des transferts de charges se réunit. Donc on analyse différents points. Bon, vous avez vu que sur le document qui nous avait été remis, donc, les deux premiers points ne nous concernaient pas, puisque le premier point concernait la commune de Castries, et le deuxième point concernait les communes qui avaient transféré des emprunts, donc ce qui n'avait pas été notre cas. Donc, chaque année, donc, on est amené à voter un montant qui est toujours identique, qui s'élève à 634 170 euros. Je rappellerai simplement, comme petite figure de rappel, de quoi il est constitué. Il est constitué d'une AC qui date de 2014, qui avait été établie quand la taxe professionnelle, puisqu'à l'époque c'était la taxe professionnelle, avait été transmise à l'agglomération de Montpellier, et en contrepartie de ça, on avait reçu la part des impôts ménages que percevait l'AGO. Donc le delta était positif pour nous, c'est-à-dire qu'on encaissait 249 875 euros de plus, et évidemment dans le but de neutralité fiscale, donc eh bien, on est amené à leur reverser cette somme-là. Alors ce qu'il y a, c'est que ça n'a pas bougé depuis 2014, c'est une somme qui est toujours constante, et donc si on analyse un petit peu la situation de Montferrier, on se rend compte que des commerces et des industries, eh bien, il ne s'en est pratiquement pas créé. Par contre, il s'est beaucoup construit, donc par le fait, si on refaisait les calculs aujourd'hui, je crois qu'on serait bien loin de ces 249 000 euros. Donc on peut dire que sur ce point-là, on est quand même gagnant. Ensuite, donc, il y a une somme de 384 295 qui correspond au transfert de compétences. Alors ces transferts de compétences, ils avaient été essentiellement la voirie, le nettoiement, et à ça se rajoutaient des petites sommes qui étaient l'air d'accueil des gens du voyage, le SDI, c'est-à-dire la défense incendie, et les hydrants, hein, les hydrants, c'est-à-dire c'est les bornes incendie, et puis aussi on participe chaque année à l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal qui n'a pas toujours abouti, et donc on verse pour la forme une somme de 4 765 euros chaque année pour ça. Donc cette somme, elle est constante. Sur cette somme, il y a sur cette somme donc de 384 000 euros, il y a 287 000 euros de CR17 qui correspond au fonctionnement. Donc cette somme, elle est pour l'instant immuable depuis l'époque où ça a été mis en place. Et on verse 97 078 euros pour l'investissement. Alors principalement, l'investissement correspond surtout à la voirie. Donc à ça, évidemment, c'est avec ces 80 000 euros qu'il faut faire tout, de les réfections de voirie, tout ce qu'on fait. Par exemple, on vient de faire l'année des platanes qui a coûté très cher. Et donc vous doutez que ça avec 87 000 francs, euros, on ne pourrait pas aller très loin. Alors à ça, il se rajoute plusieurs choses. Il se rajoute d'abord le FCTVA, c'est-à-dire la TVA qui a été payée sur les travaux l'année précédente. Ensuite, on a 20% de la taxe d'aménagement qui vient de se rajouter, puisque sur la taxe d'aménagement, la commune en perçoit directement 80% et 20% sont reversés à la métropole. Et ensuite, chaque année, on verse un montant d'ACI, d'attribution de compensation investissement de 37 506 euros, pour lequel la métropole appende elle-même de 37 506 euros. Et ensuite, on a toujours la possibilité des fonds de fonds de concours, c'est-à-dire que si on avait un projet relativement important, on pourrait donner de notre budget 40% de montant des travaux pour venir abonder pour des travaux un petit peu exceptionnels. Voilà ce qu'on peut dire pour l'attribution de compensation. les attributions de compensation. Je pense pas qu'il y ait des questions là-dessus.
Donc on va voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Alors, la délibération suivante, c'est la mise en place de la M57. Donc, tu reprends la parole.
Alors, donc, aujourd'hui, le référentiel comptable de la commune, c'est la M14. On a la M57 doit obligatoirement être adoptée par les communes au 1er janvier 2024. La Direction générale des finances publiques et même notre fournisseur informatique nous ont largement encouragés à devancer d'un an cet appel pour plusieurs raisons, parce qu'au 1er janvier 2024, ils vont être saturés et que ça nous permet pendant un an de la mettre en place. Donc, nous demandons d'adopter la M57, qui est un référentiel quand même qui est beaucoup plus abouti. Alors, en définitive, ça nous oblige donc, effectivement, donc, ça nous a obligé à demander l'autorisation à la DGFiP. Vous avez vu, vous avez le courrier qui est joint. Ensuite, donc, on fait cette délibération par laquelle on vous demande donc de pouvoir adopter la M57. On a pris attache avec notre fournisseur informatique, puisqu'il fallait s'assurer que notre logiciel était capable d'adopter la M57, et ensuite il va falloir qu'on transforme toutes les balances de la M14 à la M57 pour pouvoir travailler. Ensuite, avant le prochain vote du conseil municipal, on devra adopter un rapport budgétaire et financier. En fait, ça sera un mémorandum de toutes les pratiques comptables et de tout ce qui concerne effectivement cette M57, mais ça, j'ai commencé à y travailler, il faut que je le vois aussi un petit peu avec la commission finance, et on vous le proposera un petit peu plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire, oui, que c'est la M57 est quand même un référentiel qui est quand même beaucoup plus abouti, parce qu'en fait, il se réfère au PCG 82 qui sont utilisés par les entreprises, donc il est beaucoup plus détaillé. Il donne une plus grande souplesse en matière budgétaire avec la fongibilité des crédits, mais par contre, les grands principes budgétaires qu'on connaissait avant, évidemment, ne bougent pas. Donc, un plan comptable est plus développé. La fongibilité, c'est-à-dire qu'on aura la possibilité, si le conseil multipasse autorise le maire, de pouvoir transférer de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de fonctionnement, hors les frais de personnel. Hein. Et ensuite, aussi, c'est valable aussi pour les investissements. Donc ça permet une souplesse, c'est-à-dire qu'on pourra transférer, si on a par exemple moins dépensé dans les charges générales, de le transférer aux charges de gestion par exemple. Hein, voilà. Alors aussi un dernier point important, c'est les immobilisations. Donc là aussi, ça donne une meilleure vision du patrimoine de la commune. Ensuite, ça nous demande aussi de voter les taux d'amortissement par catégorie essentielle. Et puis ensuite, quand on achetait une immobilisation, on l'amortissait l'année suivante. Aujourd'hui, on l'amortira dès l'année d'acquisition, pro rata tempore, c'est-à-dire en fonction du nombre de mois écoulés entre l'achat et le 31 décembre. Voilà. Voilà. Essentiellement, c'est ça. Et puis aussi, les documents budgétaires seront présentés par fonction, avec un référentiel fonctionnel. Voilà. C'est-à-dire, en quelque sorte, que ça nous obligera à avoir une comptabilité analytique et on pourra présenter le budget, non plus ben, comme je le faisais en annonçant des chiffres, mais en donnant les grandes catégories, par exemple en disant le sport, les écoles, les bâtiments publics, l'administratif, etc. De pouvoir, c'est ça quand même, c'est plus structurel, mieux compréhensible hein, que des chiffres annonnés comme ça les uns derrière les autres. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Céline.
Sans micro. Non, sans micro, je vais essayer de parler fort. Alors, la convention, le passage M57.
Oui, donc la convention de passage à la M57 prévoit deux prérequis, donc l'adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 que vous avez présenté et la dématérialisation des documents budgétaires. L'entreprise que vous avez contactée
c'est le fournisseur, c'est une étonne. On va appeler rendez-vous avec lui, donc il doit nous appeler. Alors, ça se fait en visio, hein, mais en fait, on a pris trois rendez-vous. Là, c'est surtout avec Covid, hein, surtout ça va se passer. Et c'est là que, effectivement, ça va se faire. Hein. Donc, bien sûr, c'est obligatoire. Hein. C'est ça, donc.
Oui, oui. Et savoir si cette prestation avait un coût annuel, oui, ou si oui. C'était une redevance, ou comment c'était. Et puis j'avais une autre question relative à la préparation hein, de la part de la collectivité locale à ce passage qui est quand même structurellement complexe. On parle souvent d'un dialogue qui se fait en amont entre la collectivité locale et le comptable public. Je voulais savoir si ce dialogue avait déjà été entamé. Et donc la période de transition va enfin, jusqu'à quand? Enfin, j'imagine que les deux systèmes vont cohabiter pendant. Pendant...
Oui, au 1er janvier, on passe à la LCM.
Il n'y a pas de transition.
Bon, en fait, ça ne va pas changer grand-chose. C'est simplement le plan comptable plus élaboré. Vous savez que moi, j'ai travaillé pendant 40 ans avec ce plan comptable. C'est quelque chose que je connais bien.
On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. La délibération suivante concerne l'avancement de grade. Création d'un poste budgétaire. Aujourd'hui, au sein de la commune, nous avons un agent qui est susceptible de changer de grade. Pour maintenir le taux des effectifs stable, nous sommes obligés de supprimer le poste sur lequel cet agent se trouve et en créer un nouveau. Le nouveau support, c'est un support qui s'intitule animateur principal de première classe. Donc, pour permettre l'avancement à cet agent, on est donc obligé de créer ce poste, et c'est ce que je vais vous demander de voter ce soir, et de supprimer évidemment le poste sur lequel cet agent était, qui n'existera plus. Voilà. Donc, et des questions. Donc, qui. Oui.
Alors, juste, je m'interroge sur la création d'un poste pour un avancement de grade.
Du coup, l'ancien poste est supprimé au moment où ce poste-là est créé. C'est concomitant. Donc c'est une progression au choix au sein de la commune. Il y avait un seul candidat dans cette...
Ce changement n'est valable que pour ce secteur. C'est elle qui bénéficie de cette possibilité.
Au vote, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci pour Agnès. La délibération suivante concerne deux nouvelles conventions que nous avons signées cette année, une avec le CIRAD, que nous avons modifiée, et une avec l'association Tandem, qui est une nouvelle association dans le village. Et bien sûr, je vais laisser la parole à Madame Lagrifol, responsable des associations.
Le CIRAD bénéficiait d'une convention de mise à disposition payante depuis le 15 juillet 2010. Elle n'avait jamais été revue et le tarif qu'on appliquait à l'époque avait été reconduit de ce fait automatiquement. Et comme cette année, le CIRAD nous a demandé des créneaux horaires supplémentaires, nous avons négocié avec eux de façon à majorer le tarif donc horaire, ce qui nous amène à une subvention pas très importante, mais qui est mieux en rapport avec les coûts que nous subissons. La deuxième convention concerne une association qui n'est pas montpelliéraine. C'est pour ça qu'on a souhaité lui prêter les locaux, puisque elle a 12 adhérents montpelliérains. Autrement, on n'aurait pas la possibilité de continuer cette activité. Et donc, nous avons convenu donc de lui réserver 3 créneaux horaires dans nos salles, contre une redevance qui est effectivement de 400 euros pour l'année. Donc ça en conformité avec ce qui se pratique dans les autres communes également. Voilà. Donc si vous avez des questions, je suis là pour répondre aussi.
Est-ce que peut-être avant d'avoir la question, tu peux indiquer le planning du CIRAD ? C'est pas marqué dans
le planning du CIRAD, c'est parce qu'en fait, pour ne pas refaire tous les ans, on joint effectivement à l'année les plannings à la convention. C'est vrai que là, on l'a pas mise, mais effectivement, c'est donc 6 heures par semaine, donc une partie au DVSU, partie au foyer municipal.
Sur Tandem, c'était 3 créneaux.
Oui. Est supérieur puisque c'est une association hors Montfermier. Alors que le CIRAD, même si.
Oui, mais ce n'est pas une association.
C'est une association, mais qui est subventionnée par l'entreprise.
Oui, mais j'avais plusieurs niveaux de questions par rapport à ça. C'est bien que vous ayez revu un petit peu les scories qui existaient. Parce qu'une convention qui date de 2010, je pense que c'était important et urgent de la revoir. Moi, j'avais une question de fond avec cette participation. Donc, je pense que les deux cas que vous nous proposez sont assez différents, l'un et l'autre. Je pense qu'il faut les traiter séparément si on veut essayer d'y voir clair. Donc, pour le CIRAD, donc effectivement, c'est une association sportive comme ça existe beaucoup dans les établissements publics, qui est financé par le comité d'entreprise du CIRAD. En l'occurrence, et qui est réservé aux agents du CIRAD, aux agents qui travaillent au CIRAD. Bon, c'est tout à fait légitime, le comité d'entreprise peut faire ce qu'il souhaite, c'est pas un problème. Là où je m'interroge plus, c'est effectivement sur à la fois l'attribution des créneaux horaires, et le coût qui est demandé dans le cadre de cette convention. Donc, d'un point de vue général par rapport à ça, notre position serait que, ça a toujours été dit de façon générale, que les associations de Montfermier sont prioritaires sur l'attribution des créneaux et des horaires. Donc ça veut dire que sur une association comme les deux associations, enfin encore que le cas de Tandem, je pense qu'il faudra qu'on le traite à part, mais en tout cas pour le CIRAD, il faudrait que ça se fasse uniquement dans les périodes creuses qui ne sont pas aujourd'hui occupées par les associations. S'il y a compétition avec des associations de Montferrier, ça, à mon avis, ça pose une vraie question. Et le deuxième élément qui nous interroge, on est là sur une association qui est financée par le comité d'entreprise du CIRAD. Enfin, cette association reçoit une subvention pour ça. Et je m'interroge sur les coûts qui sont pratiqués. Donc, vous nous dites que c'est en augmentation par rapport au groupe précédent, dont, de mémoire, j'en avais pas connaissance, puisqu'en 2010, je n'étais pas au conseil municipal. Donc, c'est encore plus ancien que ça. Mais je pense que 600 euros par an, ce qui représente 50 euros par mois, ça ne doit pas couvrir l'ensemble des frais associés à la fois en termes de fluide et d'énergie, mais aussi d'entretien des locaux qui sont affectés. Et donc, comment vous avez choisi, je dirais, cette somme de 600 euros et sur quelle base vous comptez la réévaluer progressivement? Parce qu'il me semble que ça serait nécessaire qu'il y ait une réévaluation annuelle de cette somme qui est payée par le CIRAD annuellement, notamment dans l'idée qu'on va avoir des augmentations extrêmement importantes dans les mois qui viennent de fluide, et que tout ça va avoir des conséquences sur le budget de la commune. Donc, pourquoi ne pas introduire dans cette convention... Enfin, le schéma de la convention est assez similaire à celui qui est fait pour les associations de Montferrier. Moi, je l'aurais rendu sans doute un peu plus complexe, notamment en introduisant des clauses de réévaluation des coûts en fonction notamment d'un certain nombre de dépenses que la commune aura à supporter. Donc, premier niveau de question, à combien c'était avant et combien vous l'avez augmenté?
C'était à 300 euros.
Voilà, donc de 300 vous êtes passé à 600, donc vous avez doublé, effectivement. Pour un premier sou, c'est difficile de faire beaucoup plus, je suis d'accord avec vous, mais j'aurais bien introduit dans cette convention un paragraphe de réévaluation pour se rapprocher au maximum et le plus rapidement possible des coûts réels qui sont supportés par la commune. Si c'est possible.
Après, le CIRAD n'utilise que des créneaux qui ne sont pas utilisés, c'est entre midi et deux. Donc on a très peu, voire aucune, je pense, association montferriéraine qui utilise ces créneaux. Oui. C'est plutôt le matin ou c'est plutôt.
Voilà, il n'y a pas de compétition vis-à-vis des associations. Donc.
À ma connaissance, il n'y a pas de compétition avec les associations montferriéraines. C'est vraiment des créneaux midi et deux.
Voilà, donc ça pourrait être stipulé dans la convention que. Les créneaux doivent être ajustés sur les créneaux de disponibilité, mais c'est plus ou moins dit que la commune se réserve le droit de récupérer les horaires. Mais au-delà de la récupération ponctuelle, on peut aussi décider que chaque année, la révision des horaires pourra être faite suivant la fonction des utilisations par les associations de la commune. Mais c'est bien dans cet ordre-là, c'est-à-dire que vous n'allez pas dire à une association de Montferrier, c'est pas possible ce créneau-là, parce qu'il y a le CIRAD, on est d'accord. Ok. Donc si ça se fait dans cet ordre-là, nous, ça nous convient tout à fait. Et par contre, je vous dis, rajouter au moins une clause dans la convention qui permettrait de réajuster, alors, soit sur un référentiel qui existe, du coup des fluides ou je ne sais pas, que vous avez INSEE, soit plus facilement, enfin, en disant qu'il y aura une réévaluation annuelle en fonction. Enfin, je pense qu'il faudrait qu'on se rapproche du coût réel que ça coûte à la commune. Qu'on ne fasse pas de bénéfice sur le dos de l'association, ça me semble légitime. Le CIRAD est basé sur Montferrier. Mais qu'on leur offre, je dirais, une subvention, ça ne me paraît pas logique. Voilà, donc il faut s'approcher au maximum de ce coût-là. Donc, pour cette année, vu l'augmentation qu'il y a eu de plus 100%, on va peut-être s'arrêter là, mais... Pensez pour l'année prochaine à avoir cette partie-là. Pour la deuxième association, je pense que le traitement est absolument différent. C'est une association qui n'est pas sur Montferrier, mais qui offre un service aux Montferriérains, c'est bien ce que j'ai compris, c'est ça. Donc elle offre des cours qui sont payants. Et c'est-à-dire que là, il n'y a pas... qui ne sont pas fournis par des associations de Montferrier. Mais ça veut dire que si cette association créer une antenne, une nouvelle association sur Montferrier, de facto, ça serait pour elle gratuite, l'utilisation des locaux. On est d'accord. Donc voilà, donc c'est... Bon, après, s'ils acceptent le fait de payer 400 euros, moi j'y vois pas d'inconvénient, mais quelque part, pour moi, il y a une petite distorsion Si on est bien d'accord, si les activités qui sont proposées sont bien à destination des Montferriérains, je suppose que c'est le cas, puisque l'association étant basée à Loret, les gens de Loret ne vont pas venir à Montferrier et faire les cours.
Cette association existait déjà à Montferrier, oui. Dans un salon.
D'accord.
Elle existait déjà.
Et le siège social est à Loret, pourquoi? On sait. Ils ont des activités à Loret, je suppose. D'accord. Donc c'est une association qui pratique cette activité sur plusieurs communes. Donc ok. Donc là, à la limite.
Que fait cette association?
La danse.
On a regardé sur internet.
C'est où et quand, parce que...
On fait le joueur de la soirée.
D'accord. Donc juste, c'est pour vous dire que nous allons voter favorablement pour ces deux conventions, mais qu'on souhaiterait quand même que celle du CIRAD soit un peu creusée pour l'année prochaine, pour qu'on arrive à quelque chose qui soit plus équilibré.
Après toutes ces questions très intéressantes, on va passer au vote. Qui est contre? Oui.
Non, ce qu'il faut faire, c'est cette année, dire que cette convention est valable pour cette année.
Pour cette année, jusqu'au mois. D'ailleurs, la convention est valable jusqu'au mois de juin. Hein.
Non, mais c'est marqué en tacite reconduction. C'est marqué. Donc supprimer peut-être la phrase tacite reconduction de cette année. Et qu'on refasse le.
Donc, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. La délibération suivante, c'est l'attribution de subventions exceptionnelles. Et donc, je vais redonner le micro à Mme Adrifol.
Exceptionnelle concerne la lire, comme vous l'avez vu, comme tous les ans, à la fin de l'année scolaire, il y a un concert qui est ici au Devezou, et pour ce concert, des élèves, donc ils ont besoin d'un piano. Et ils nous ont demandé donc une subvention exceptionnelle pour la prise en charge de la location de ce piano. Et donc, nous avons souhaité effectivement répondre à leurs attentes. Et donc, on vous propose le vote d'une subvention de 400 euros. En ce qui concerne l'association Les Équipiers Solidaires, il s'agit de l'association qui va faire les couronnes, donc la ronde de Montferrier, donc la course des enfants, dont plus des adultes, mais donc dont les scolaires de l'école primaire de Montferrier avec la participation donc des adultes, dans le but de développer l'engagement éco-responsable et solidaire, parce qu'il ne s'agit pas que d'une course, ils ont aussi d'autres ambitions, d'éveiller donc les enfants, surtout à l'éco-responsabilité et à la solidarité. Vous avez d'autres informations d'ailleurs sur le bulletin municipal en ce qui concerne cette manifestation qui se déroulera donc le 11 décembre. Pour les aider à l'organisation de cette manifestation, nous avons donc décidé de leur accorder l'aide financière souhaitée donc de 800 euros. Parce que c'est eux qui se chargeront, comme vous l'a dit Madame le maire, de toute l'organisation de la course.
Oui, juste une question. On met en regard ces deux subventions. Donc pour les 400 euros du piano, on comprend bien à quoi ça va servir. Et en plus, le concert de fin d'année est un concert gratuit. Donc voilà, c'est une aide. Pour la dire. En revanche, pour les équipiers solidaires, hein, je ne remets pas en doute la qualité de ce qui va être présenté, hein, cet éco-run. Néanmoins, est-ce que vous avez une idée, comment vous avez construit cette subvention à hauteur de 800 euros, qu'est-ce que ça recouvre? Et là, j'ai bien compris.